La reprise ce mercredi des conférences de presse du gouvernement. Première information, Alcide Ponga tiendra sa déclaration de politique générale le 20 février prochain au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le point sur les conditions météo, l'épisode dépressionnaire s'éloigne progressivement du territoire. Les communes du Grand Nouméa et l'île des Pins sont toujours en vigilance jaune fort vent. Le tribunal administratif de Nouméa a dressé le bilan ce matin de son activité en 2024. 660 requêtes ont été saisies l'an dernier, un nombre en constante augmentation. À quelques jours de la rentrée scolaire, nous recevons ce soir dans notre page spéciale rentrée Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud en charge de l'enseignement. Ce nouveau rendez-vous hebdomadaire à Nouméa, le marché Broussard de Ducos, le mercredi après-midi. L'inauguration a eu lieu aujourd'hui. Et puis du sport, les Océania de cyclisme sur piste en Australie. 5 jeunes Calédoniens sont engagés depuis hier et jusqu'à samedi. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans InfoArt pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Et on ouvre ce journal avec l'actualité institutionnelle. Ce matin, la réunion du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, en début d'après-midi, cela avait été annoncé, Lionel Sabot, la reprise des conférences de presse hebdomadaires du porte-parole Christopher Gigès.
Oui, et la principale information à retenir, c'est que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a ce matin voté à l'unanimité la suppression de la fameuse prime sur les panneaux photovoltaïque. Le texte a été voté par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie suite à un amendement qui avait été en séance lors de l'examen du texte il y a quelques mois. Un texte qui avait défrayé la chronique puisque le texte impactait les personnes qui revendaient l'électricité sur le réseau, mais aussi les personnes en autoconsommation. Un texte qui en quelque sorte modifiait les règles du jeu qui avaient été perçues comme une véritable taxe à la population. Écoutez Christopher Gigès, porte-parole du gouvernement.
Une vraie victoire à la fois sur le pouvoir d'achat et sur la transition énergétique, puisque le Congrès de la Nouvelle-Calédonie avait choisi par amendement, mais avec des mauvaises informations à ce moment-là, de mettre une taxe sur le solaire et sur les Calédoniens. On a vu comment ça avait pu faire réagir les uns et les autres. Il y avait eu des recours qui avaient été déposés par UFC Que Choisir, par PLP. Justement, puisqu'on était revenu sur des contrats de personnes qui avaient fait le choix d'investir dans la transition énergétique. Et donc le gouvernement a fait le choix à l'unanimité ce matin d'annuler cette taxe. Ça doit repasser devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Mais le fait d'avoir un vote à l'unanimité au gouvernement nous donne bon espoir pour la suite. Surtout qu'on a pris des mesures qui n'impactent pas le pouvoir d'achat, mais qui viennent compenser le système électrique.
Lors de leur réunion ce matin, les membres du gouvernement ont par ailleurs demandé l'ouverture d'une session extraordinaire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour la déclaration de politique générale. On retrouve Christopher Gigès.
C'est extrêmement important dans ce moment de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie d'avoir la voie qui est tracée de ce 18e gouvernement. Donc Alcide Ponga tiendra sa déclaration de politique générale le 20 février prochain au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Et parmi les autres textes adoptés par le gouvernement, on notera que dans le cadre de la reconstruction, le gouvernement a accordé un délai supplémentaire en termes de délai de réalisation à plusieurs entreprises qui ont bénéficié d'aides sous forme de défiscalisation locale pour de nouveaux investissements.
Faisons le point maintenant sur les conditions météo. Alors que l'épisode dépressionnaire qui nous concernait ces derniers jours s'éloigne progressivement du territoire, Michael Juneski.
Et la situation qui s'améliore après le passage de 3 phénomènes dépressionnaires dans notre zone. Plusieurs communes sont toutefois encore ce soir en vigilance jaune. Vent violent sur la côte ouest de l'île des Pins à Bouraille, en passant par Moindou, La Foa, Bouloupari, Païta, Dimbéa, Nouméa et le Mont d'Or. Des rafales pouvant aller parfois jusqu'à 70 km/h. Les intempéries avaient provoqué des perturbations pour la circulation ces derniers jours, notamment avec des radiers inondés. Aujourd'hui, les axes principaux sont de nouveau praticables, notamment à Bouraillé-Pointe-Boute, où les rafales de vent avaient provoqué des chutes d'arbres ou de branches. Notez toutefois qu'à Thio, la route à horaire est coupée en raison d'un éboulement. La route de Pechekera est désormais interdite d'accès. Les équipes techniques du gouvernement vont tenter de rétablir la circulation sur cet axe prochainement. Le gouvernement qui a par ailleurs appelé l'ensemble des Calédoniens à faire preuve de la plus grande vigilance lors des déplacements, en particulier sur le réseau routier. Du côté des transports en commun terrestres tout d'abord, et notez que le réseau rail du syndicat mixte de transport interurbain annonce la reprise de son service à compter de demain. En mer, en revanche, de grandes difficultés encore pour les passagers aux îles devant emprunter le Betticho en raison des conditions météo et une rotation négociation est prévue demain entre Nouméa et Lifou, mais l'escale à Marie a dû être annulée. Écoutez les précisions de Stéphanie Leclerc, responsable communication au Bétidjo.
La rotation de demain devait se faire dans le sens Lifou-Marée. Alors malheureusement, d'après les prévisions météorologiques, on a dû supprimer l'escale à Marée. Donc le Bétidjo va faire une rotation en aller-retour uniquement à Lifou. Donc la rotation a été confirmée à peine à midi. Depuis des jours, les prévisions sont très instables. Malheureusement, on ne peut pas programmer un planning sur du long terme. Vraiment, on étudie, on contrôle la météo au jour le jour, puisque les prévisions sont vraiment incertaines depuis des jours. On a pu recaler tous nos passagers qui devaient initialement partir demain, donc dans le sens Nouméa-Lifou, Lifou-Nouméa. Donc on les a prévenus par SMS et par mail. Mais en plus de cela, étant donné qu'on a annulé l'escale à Marée, on a libéré de la place pour proposer à tous les passagers actuellement en souffrance, qui devaient partir initialement le lundi 10 février, en aller-retour plus le mercredi 5 février, qu'on n'a pas réussi à recaler sur les rotations suivantes. On les a contactés individuellement et c'est encore en cours par les équipes commerciales pour leur proposer de partir sur le voyage de demain. Alors une petite information client, évidemment ils pourront présenter leurs anciens billets et ces billets-là seront scannables le jour du départ, au départ de Nouméa ou au départ de Lifou. Il est inutile de venir en agence pour redemander de réimprimer le billet. Il n'y a pas de problème.
Stéphanie Leclerc, responsable communication au Bétidjo. Notez que plus d'un millier de passagers sont concernés par les annulations des rotations du Bétidjo en raison de la météo, que ce soit à Lifou, Marée et Ouvéa. Toujours pour les îles, loyauté concernant cette fois le trafic aérien domestique. La situation s'est arrangée puisqu'aujourd'hui tous les passagers qui étaient en souffrance ont pu être pris en charge. Marion Gentelet, responsable marketing de la compagnie Aircal.
La semaine qui s'est écoulée la semaine dernière, nous avions rencontré plusieurs problématiques entre des aléas techniques et des problématiques météo qui nous ont conduit à stopper l'exploitation 6 jours même d'affilée. Nous avions répertorié environ 1500 personnes qui étaient en attente de solutions de voyage. Donc nous avons pu mettre en place 13 rotations spéciales entièrement dédiées à ces personnes. Et puis nous avons également complété avec les places disponibles sur les premiers vols réguliers de façon à ce que nous ayons une solution pour toutes les personnes en attente. Le programme, en tout cas de vol, a repris de manière normale depuis samedi dernier. Et les derniers événements météo n'ont pas eu d'impact sur notre exploitation. Donc on espère que cette météo restera favorable jusqu'à la rentrée.
Marion Gentelet, responsable marketing à Air Calédonie. Notez encore que dans le Nord, cette fois, le navire Le Seabreeze annonce, lui, une rotation demain prévue entre Koumak et Belep. Et puis, on signalera encore, parmi les conséquences de ces intempéries, la fermeture jusqu'à nouvel ordre du parc provincial de la Dimbéa ainsi que du parc Fayard. Donc, une interdiction de se rendre sur place jusqu'à un nouvel ordre.
À l'actualité judiciaire, maintenant une activité en hausse pour le tribunal administratif. Son président Hubert Delesalle dressait le bilan de l'année 2024 ce matin, Lionel Sabot.
Plusieurs dossiers ont fait la une de l'actualité, notamment les demandes des cadres de la CCAT qui contestaient leur assignation à résidence lors de l'état d'urgence, la question de l'aide médicale en province sud ou encore la présence des deux drapeaux sur le permis de conduire. Des affaires médiatiques qui ne représentent pas la majorité des affaires traitées par cette juridiction qui fait face à une augmentation constante de son volume d'affaires. Malgré tout, elle continue de rendre ses décisions dans les délais très satisfaisants pour Hubert Delesalle, qui a pris ses fonctions de président en novembre dernier.
On a atteint un record historique dans le nombre d'affaires enregistrées, donc nous nous sommes saisis avec 660, plus près de 5% d'augmentation. Et donc on est sur une tendance haussière que connaissent tous les tribunaux administratifs. Alors les affaires dont nous sommes saisis concernent principalement, pour les deux tiers, disons, les fonctionnaires, les agents publics, et en particulier pour des problèmes de primes et de rémunération. Nous avons un certain nombre d'affaires de l'ordre de 90 qui mettent en cause toujours les conditions de détention au centre pénitentiaire et un nombre équivalent qui ont trait à la matière sociale, mais qui ont largement été liés à la réforme de l'aide médicale avec la réforme du ticket modérateur par la province sud. Nous avons le meilleur délai moyen à constater, c'est-à-dire le temps qu'on met à juger les affaires aux sommes saisies, puisque c'est le plus bas de France, avec un peu plus de 5 mois pour juger les affaires. C'est un délai particulièrement satisfaisant et rapide pour la plus grande satisfaction des justiciables.
La tendance haussière du nombre de requêtes déposées devant le tribunal administratif devrait se confirmer en 2025 dans un contexte post-émeute 2024.
Sans aucun doute, c'est une tendance structurelle que connaissent tous les tribunaux administratifs et je pense que 2025 sera particulièrement soutenu pour le tribunal dans son activité. Voilà, je pense que nous sommes sur une tendance d'au-delà de 600 requêtes qui est bien établie désormais. On va être a priori saisi d'un nombre à déterminer encore de requêtes faites par des assureurs, mais aussi par des particuliers mettant en cause potentiellement la responsabilité de l'État lors des émeutes de 2024. Voilà, les assureurs ayant indemnisé des entreprises notamment et se retournant devant nous pour obtenir les sommes qu'elles ont pu verser à leurs assurés.
Des propos recueillis par Nicolas Legrand. Le tribunal administratif siégera à Wallis en février pour examiner une quinzaine d'affaires.
À noter maintenant dans vos rendez-vous d'antenne sur Radio Rythme Bleu, depuis 9 mois, les assurances du territoire sont au travail pour faire face aux destructions, dégradations, pertes d'exploitation causées par les émeutes. Souvent sous le feu des critiques, elles poursuivent leur travail pour indemniser les personnes qui ont subi la vague de violence du 13 mai et des jours qui ont suivi. Où en sont les procédures? À quelle vitesse se font les indemnisations? Quelle politique de réassurance? Rendez-vous demain dans les Jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu. Jean-François Baudin recevra Frédéric Jourdain, le président du COSODA, Comité des sociétés d'assurance de Nouvelle-Calédonie, et Jean-Michel Calba, vice-président du COSODA. Autre rendez-vous politique, cette fois l'Assemblée de la province sud en séance publique. Demain matin, les délibérations inscrites à l'ordre du jour traduisent une nécessité de s'adapter au contexte budgétaire. Contexte budgétaire particulièrement contraint en raison des émeutes, tout en maintenant un certain nombre de dispositifs d'aide. Les conseillers doivent adopter plusieurs mesures de soutien à la transition numérique des acteurs économiques. Ils examineront également une délibération qui modifie les bourses et les aides scolaires des premiers et second degrés et un élargissement aux vacances scolaires du dispositif Click and Move. À noter enfin une modification des modalités de délivrance du permis de chasser en province sud pour assurer une cohérence avec les dispositions nationales qui encadrent le port d'armes. De leur côté, les délégations des groupes politiques qui ont participé toute la semaine aux discussions bilatérales avec l'État s'apprêtent à rentrer sur le territoire où les ministres des Outre-mer, Manuel Valls, est attendu le 22 février prochain. Avant de prendre l'avion, la délégation UC-FLNKS a dressé face à la presse le bilan d'une semaine de discussions bilatérales. Le chef de la délégation, le député Emmanuel Tchibaou, que vous avez pu entendre dans nos précédentes éditions, déclare que le seul compromis acceptable pour le FLNKS serait une souveraineté partagée à condition qu'elle soit transitoire. Et il souligne même que le socle des prochaines négociations se tiendra sur la base des accords de Matignon et de Nouméa.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour d'abord, selon vous, est-ce plutôt un bon signe que Manuel Valls passe 8 jours en Nouvelle-Calédonie parce qu'il veut consacrer du temps aux discussions? Si vous pensez que la durée de ce séjour est plutôt un bon signe, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier maintenant, alors qu'un sommet sur l'intelligence artificielle se déroule actuellement à Paris, 87% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment que l'IA est surtout un danger. Ils ne sont que 13% à y voir surtout une opportunité. À 17h59, bientôt 18h, on marque une première pause dans ce journal avant d'ouvrir notre page spéciale rentrée scolaire avec notre invité Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud en charge de l'enseignement.
Sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'info soir, Léo Fichou.
Suivez les pages rentrées avec Bureau Vallée.
La rentrée à prix fou, c'est chez Bureau Vallée Magenta. Le sac à dos Eastpak Padded Packer est à 5 900 francs. Et pour une rentrée encore moins chère, Bureau Vallée rachète votre ancien cartable en bon état jusqu'à 1 500 francs en bon d'achat. Offre valide jusqu'au 17 février 2025.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Notre page spéciale rentrée dans laquelle nous recevons Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud en charge de l'enseignement. Bonsoir Gilles Brial.
Bonsoir.
Vous serez interrogé dans un instant par Jean-François Baudin. Mais avant de nous pencher sur cette rentrée scolaire dans la province, on va revenir sur ces prises de position du collectif Urgence Sociale. Le collectif dénonce les mesures prises en province sud pour durcir les règles d'accès aux aides et aux services publics, notamment dans le cadre de la rentrée scolaire. Ce collectif est composé de l'UGPE, des représentants de partis indépendantistes, de syndicats et de représentants des associations de quartiers populaires. Jean-France Toutiquian, pardon, est le secrétaire de l'UGPE.
On veut signaler bien sûr les problèmes que rencontrent les familles et notamment les familles de milieux populaires pour cette rentrée scolaire avec quand même des économies extrêmement importantes. Près de 180 millions économisés en province sud sur les bourses. C'est vraiment trop important. À la fois les bourses d'internat, les bourses de demi-pension, les bourses d'externe, tout y passe quoi. Hein. Et donc on le voit bien, nous, des familles viennent nous voir. Jusqu'à présent, elles avaient la bourse et là, tout à coup, on leur coupe la bourse. Ça va impacter des milliers de familles. Après, il y a aussi, bien sûr, les premières inscriptions en maternelle. Là aussi, on ne comprend pas que le droit à l'éducation ne soit pas respecté. Pour nous, c'est une façon de punir ces quartiers qui se sont révoltés à partir du 13 mai suite au projet de dégel du corps électoral.
Le collectif annonce une mobilisation demain devant le Haut-Commissariat de 8h à 15h. Voilà donc pour cette prise de position du collectif Urgence Sociale sur laquelle va réagir notre invité Jean-François Baudin.
Oui, Gilles Brial, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la province sud est accusée, en quelque sorte, de priver une certaine population de droit à l'éducation. Ça vous fait réagir, j'imagine, parce que c'était pas la volonté de la province?
Non, alors d'abord, il faut être clair sur qui fait les attaques. C'est une cabale médiatique, mais politique, hein, organisée par l'UGPE, le MNIS. Et moi, je regardais attentivement en direct cette conférence de presse. Et quand je vois qu'à côté de M. Toutiquian siège quelqu'un qui a été arrêté dans les premiers jours pour les exactions de l'insurrection de la CCAT. Donc, c'est tous ceux qui ont soutenu finalement les agissements, les actes terroristes de la CCAT qui viennent de se plaindre aujourd'hui des conséquences qu'il y a sur l'ensemble des Calédoniens. Parce qu'ils mettent en évidence la suppression de 180 millions sur les bourses de la province sud, mais c'est 6,5 milliards de réduction budgétaire qu'on a été obligé de faire parce qu'on perd, nous, dans notre budget, 17 milliards. La province sud, 30% de notre budget est parti en fumée, parce que tous ceux qui ont détruit la richesse en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire les emplois, les entreprises, font qu'aujourd'hui, il y a moins de consommation, il y a moins de salaire et il y a moins de fiscalité qui est prélevée.
Il n'y avait pas d'autre solution que de toucher à ces bourses de rentrée scolaire?
Non, la réalité, c'est qu'on intervient, on fait des démissions, des coupes budgétaires sur l'ensemble de nos compétences. Donc avant, parce que là, c'est les cantines qu'il s'agit essentiellement, la province sud payait 700 francs par repas. Aujourd'hui, on paye 600 francs par repas. Donc on ne peut pas dire qu'on se désengage, on paye 100 francs de moins. Mais les élèves, pour encore avoir accès, donc pour le boursier, au repas, ben certes, avec une participation de 100 francs des parents, mais il y a bien une volonté d'accompagnement. Et comme c'est la province sud qui prend ces mesures-là, ben, il y a une espèce de politisation du dossier, une espèce de racisme portée derrière. Mais quand le Nord prend la même direction, puisque c'est ce qui a été dit au DOB, qui réfléchissait à diminuer les bourses, ben au Nord, on ne va rien lui reprocher. Donc c'est simplement une cabale médiatique contre la politique non indépendantiste. Mais dans la réalité, personne ne parle de tout le reste qui est baissé. Je prends un exemple, le CAS, c'est-à-dire le dispositif d'aide à la création d'emplois, à la création d'entreprises, ben on le baisse de 50%. Les aides aux agriculteurs, que ce soit pour l'emploi agricole, pour l'aide au forage ou pour l'aide à la transmission des propriétés, donc ça, c'est pas des populations kanaks et océaniennes, moins 78%. Mais ça, on n'en parle pas, vous voyez. Donc sur la culture, on a une baisse de moins 50%, moins 50% également pour le sport. Donc c'est toute la population calédonienne, malheureusement, qui est concernée. Et c'est toute la population calédonienne qui subit les conséquences des destructions massives des entreprises et des emplois qui ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie, soutenues par les mêmes qui s'en plaignent aujourd'hui.
Alors, dans ce contexte, j'avais quand même organisé une rentrée scolaire, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un chiffre sur les effectifs qui vont être accueillis dans les établissements en province sud ?
Alors aujourd'hui, on a 16 780 élèves d'inscrits dans le primaire public, hein, parce que nous, on gère les écoles du primaire public. L'année dernière, on était à 18 400 et il y a encore 4-5 ans, on était à 20 000. Donc on voit qu'il y a une baisse régulière des effectifs dans les écoles publiques du primaire, mais également du secondaire. Ça concerne également les collèges de la province sud, qui a été accélérée l'année dernière. Mais par rapport à ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de départs et les parents sont partis, évidemment, avec leurs enfants. Donc ça, c'est la première des choses. Après, ce qu'on oublie de dire, c'est que oui, on a un budget qui est en grosse baisse, mais malgré ça, on a décidé de continuer à avoir un enseignant dans chaque classe et de garder le principe d'avoir des classes avec 25 élèves au maximum dans les écoles primaires de la province. Et ça, enfin, il faut se rappeler que c'était pas le cas il y a encore quelques années. Il y a une dizaine d'années, on avait plus d'élèves par classe. Et donc, on a fait ce choix-là pour garder la meilleure qualité d'enseignement possible. Et quand on discute avec les fonctionnaires de Bercy, ils nous expliquent que si la province veut faire des efforts, ben on met 50 élèves par classe. Mais nous, on a décidé de maintenir ça. Donc, ça nous fait maintenir une grosse masse salariale d'enseignants qu'on assume pour une qualité d'enseignement.
Alors, il y a aussi la question des locaux, parce qu'on sait que les exactions ont perturbé un certain nombre de quartiers, avec des écoles et des collèges qui ont été partiellement ou totalement détruits ou endommagés. Est-ce que vous avez pu faire le nécessaire depuis le 13 mai pour faire en sorte que les élèves soient accueillis dans les meilleures conditions possibles ?
Alors, c'est les équipes.
Et puis, il y a aussi, évidemment, la question de sécurité.
Alors, oui, mais alors, il y a 6 écoles qui ont brûlé en province sud, qui ne vont pas, évidemment, réouvrir. Il y a un collège qui ne réouvrira pas, c'est le collège de Rivière-Salée. Et malgré ça, on a réussi à préparer une rentrée grâce aux équipes municipales de chacune des communes concernées et à la direction de l'enseignement de la province sud, où on a pu redispatcher les élèves quand il y avait plus d'école.
Par exemple, Rivière-Salée sera accueillie à Port-de-Fer.
Les collégiens de Rivière-Salée sont accueillis en priorité au collège de Port-de-Fer. Ils peuvent demander des dérogations pour Caméré ou pour Coutio s'ils le souhaitent, mais ils sont accueillis en priorité au collège de Port-de-Fer. Donc, ils vont être accueillis dans des conditions tout à fait normal d'enseignement. Il n'y aura pas une perte de qualité de l'enseignement pour ces élèves. Et c'est ça qui est important, c'est les moyens qui ont été mis. Nous, on a dû mettre presque 330 millions de travaux rapides pour mettre les collèges en état. On a des collèges comme celui de Caméré qui a été bien abîmé, pour pouvoir le maintenir en vie, je dirais, à la rentrée. On a mis ces dispositifs-là, à Caméré, à Tuban, à celui de Coutio, Auteuil et de Mévarin qui a été également abîmé. Plus, évidemment, on continue la sécurisation de nos établissements, parce que l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de nouvelles dégradations.
Sur ces points techniques, vous pensez que la rentrée se fait dans les meilleures conditions possibles par rapport aux événements qu'on a connus l'année dernière ?
Oui, parce qu'il y a un vrai engagement des enseignants, de l'ensemble des équipes pédagogiques et des équipes administratives, encore une fois des communes et des provinces qui font leur maximum au quotidien pour que la rentrée se passe bien. Bien sûr que c'est pas la rentrée idéale, c'est pas la rentrée scolaire de février 2024 avec 6 écoles et un collège en moins, mais c'est dans l'enseignement des enfants qui vont recevoir de la part de leurs enseignants quand ils sont primaires et de leurs enseignants quand ils sont au secondaire, eux, ils n'auront pas une baisse de qualité.
Sur les questions plus pédagogiques, est-ce que la province a manifesté sa volonté de mener des expérimentations pour l'apprentissage de la lecture, de renforcer le réseau des écoles bilingues ? C'est un travail de fond qui est engagé depuis plusieurs années que vous continuez à développer ?
Oui, une des grosses problématiques, hein, c'est l'illettrisme, en tout cas le manque de niveau de lecture dans certaines écoles, dans certains niveaux, qui fait que, bah, après c'est une difficulté, quand vous lisez mal, vous avez du mal à être bon en maths parce que vous avez du mal à comprendre, à les énoncer rapidement, et donc vous êtes dès le début en échec. Donc on travaille avec un professeur en neurosciences de l'université d'Aix-Marseille pour faire une expérimentation sur 9 CP pour essayer de voir si avec d'autres outils pédagogiques, on peut améliorer je dirais ce niveau de lecture plus rapidement, et dès qu'on touche à la capacité à lire plus rapidement, on sait qu'on améliore toute la scolarité derrière.
Et le développement des écoles bilingues, c'est pour répondre aux enjeux régionaux ?
Oui, c'est une volonté de l'exécutif provincial depuis 2019. Là, c'est les deux écoles de Boulou-Paris qui vont rentrer dans le réseau bilingue. Pour nous, c'est important dans la région dans laquelle on vit, dans une région anglophone. Notre volonté, c'est d'ouvrir nos enfants sur le monde extérieur. Ça va être le cas en mettant du numérique, le cartable numérique à l'école. Et c'est le cas avec les écoles bilingues pour s'insérer au maximum dans la région. Et donc, il y a une formation, évidemment, des enseignants, des partenariats avec des écoles sur Melbourne où il y a des échanges entre enseignants pour pouvoir échanger les outils pédagogiques et les méthodes d'enseignement.
Un mot, Gilles Briel, si vous le voulez bien, sur la tenue commune qui est déjà en vigueur depuis plusieurs années dans les établissements de la province sud. Les choses ont été revues parce qu'il y avait des contraintes là aussi avec les prestataires qui ont subi des dégâts, etc. Mais elles ont surtout été affinées pour répondre aux besoins des familles le plus possible et notamment au pouvoir d'achat.
Oui. Alors comme vous l'avez dit, le prestataire de 2024 a pu ouvrir 5 jours et après ses locaux ont été entièrement incendiés. On a retravaillé avec lui sur la composition du kit, moins de polos, plus de t-shirts. Donc on a modifié le kit et du coup on l'a rendu plus accessible pour les parents parce qu'il est passé de 5 800 à 5 250 francs et ça c'est le coût pour les parents. Je rappelle que la province finance 40% de plus parce qu'on est bien en dessous de ce que nous coûte un kit. Mais l'objectif, encore une fois, c'est que toutes les familles puissent s'équiper en vêtements pour toute l'année à un coût très attractif et qu'il y ait un sentiment d'appartenance et puis plus de sécurité dans les écoles où on voit que quelqu'un n'est pas de l'école, n'a pas le même t-shirt que les autres.
Gilles Briel, pour terminer, on va changer légèrement de sujet, mais vous rentrez juste de Paris, hein. Vous étiez dans la délégation loyaliste qui a participé aux discussions bilatérales. Vous avez rencontré à plusieurs reprises le ministre des Outre-mer. Quel est votre sentiment au retour de ces discussions? Est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont avancé et est-ce que vous pensez que les choses vont encore avancer avec la visite de Manuel Valls prévue dans quelques jours?
Pour l'instant, c'est mitigé, parce qu'il y a des points positifs. Nous, on a pu, notre délégation, c'est les loyalistes et le rassemblement, expliquer ce qu'on voulait pour la Nouvelle-Calédonie, être les porte-parole de ceux qui ont dit 3 fois non à l'indépendance, mais également de ceux qui n'ont pas pu s'exprimer, mais qui ont condamné toutes les exactions et qui ont subi tout ce qui s'est passé depuis le 14 mai. Donc c'est un retour à l'esprit de Matignon avec un renforcement des provinces. Donc on a pu échanger là-dessus, donc ça c'est positif. Et puis donc mitigé, parce que l'aspect négatif, c'est que les indépendantistes, notamment le FLN, a considéré qu'ils n'avaient pas de mandat pour discuter qu'à 3. Pour l'instant, ils ne discutent avec l'État. Donc ce ne sont que des échanges et la Nouvelle-Calédonie a besoin de négociations et d'arriver à un accord, et on ne pourra pas faire un accord tant qu'il n'y ait pas les 3 parties, État, indépendantiste et non-indépendantiste, autour de la table. J'espère que la venue de Manuel Valls changera ça et que l'État sera un peu plus ferme. Je trouve que l'État est encore trop faible aujourd'hui.
Gilles Briel, deuxième vice-président de la province sud, en charge notamment de l'enseignement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.
Merci.
Merci beaucoup Jean-François Baudin. Et toujours à propos de la rentrée scolaire, notez que notre invité demain matin sera le premier adjoint au maire de Nouméa. Jean-Pierre Delrieux détaillera les conditions de la rentrée dans les écoles de la commune de Nouméa. Et pour cette rentrée scolaire, justement, les parents doivent se préoccuper, procurer également des livres scolaires, des tenues pour les enfants au lycée Jules Garnier. L'association parents d'élèves de l'établissement et l'UGPE sont mobilisés comme chaque année. Mais depuis lundi, constate Margaret Sandre, la présidente de l'APE du lycée Jules Garnier, les parents sont beaucoup moins nombreux que les années précédentes.
Pour cette rentrée scolaire 2025, on voit qu'il y a un grand changement par rapport à l'année dernière. Très peu de parents sont venus et je constate, suite aux émeutes, que les parents ont très peu de moyens. Donc ils ont du mal à sortir 10 000 francs pour des manuels scolaires et en plus 1 000 francs pour un t-shirt de sport. Ça veut dire que des fois, ils se retrouvent à choisir entre prendre des manuels scolaires pour leur enfant ou prendre un t-shirt de sport. Comparé à l'année dernière, on en a très peu qui sont venus.
Des propos recueillis par Kélinda Boiscou.
C'était les pages spéciales rentrée avec Bureau Vallée.
La rentrée sans stress, c'est sur le site bureauvallée.nc. Téléchargez votre liste scolaire directement sur le site bureauvallée.nc et notre intelligence artificielle s'occupe de tout. En trois clics, votre panier est prêt. Livraison ou retrait en magasin, c'est rapide et ultra simple.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
À 18h15, après cette page spéciale rentrée scolaire, on tourne une seconde pause dans ce journal. Restez avec nous, juste après on parlera notamment de l'inauguration de ce nouveau rendez-vous hebdomadaire du mercredi après-midi, le marché Broussard de Ducos.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Urgence pouvoir d'achat. Vous entendez ? C'est la rentrée ! Mais c'est aussi et surtout l'occasion de participer à notre grand jeu spécial rentrée jusqu'au 23 février pour gagner plus d'un million de francs de cadeaux. Pour jouer, rendez-vous dans votre magasin Hyper Upa Italy et remplissez le bulletin de jeu sur l'une des bandes sur place. Jeu sans obligation d'achat, règlement disponible en magasin, tirage sort le 24 février. Suivez toute notre actualité sur notre page Facebook et profitez de nos promos rentrée des classes dans notre catalogue. Hyper U, sortie Païta Centre.
U, commerçant autrement.
RRB, première radio d'information.
La suite d'InfoSoir, Léo Fichou.
Le marché Broussard de Ducos est un nouveau rendez-vous hebdomadaire. Dès l'ouverture à 13h aujourd'hui, les visiteurs ont pu se ravitailler avec une partie des producteurs et pêcheurs habituellement présents sous ces halles de Nouméa le samedi matin. Pour la Chambre d'agriculture et de la pêche qui organise ce marché, c'est une occasion supplémentaire de favoriser les circuits courts alors que près de 3000 visiteurs partent chaque semaine à la recherche de fruits, de légumes, de poissons frais et d'autres denrées locales. Les précisions de Jean-Christophe Niotou.
C'était une demande d'une part des consommateurs mais aussi des exposants. Donc on a réussi à faire cet événement. Et puis je suis ravi de voir qu'on a une bonne vingtaine d'exposants et une foule de visiteurs que je ne pensais pas aussi importante compte tenu du temps notamment. Et donc là, je suis ravi de voir que c'est un premier essai et une réussite. Donc il y a plusieurs éléments qui sont à noter qui sont positifs. D'une part, donc on a moins d'exposants. C'est un côté positif aussi parce que c'est des nouveaux exposants. Des gens qui ne sont pas forcément là le samedi, parce qu'on a des gens du samedi qui viennent de très très loin, qui ne peuvent pas venir le mercredi après-midi. Et vous savez, le samedi, c'est très demandé, on n'a pas de place pour les exposants, des nouveaux exposants. Donc là, on a la chance de pouvoir accueillir des nouveaux qui n'ont pas la place d'habitude. Et puis, on a des gens qui ne peuvent pas forcément venir le samedi, donc le mercredi après-midi, ça leur correspond. Donc on est ravis, ça fait plaisir à tout le monde et ça permet d'ouvrir une plage supplémentaire pour les consommateurs locaux et donc améliorer la consommation locale et le mangeon local.
Et des Calédoniens contents d'avoir ce marché Broussard le mercredi après-midi.
Eh bien, je suis très contente et puis ça me permet aussi de sortir avec les enfants. Très satisfaite de venir, la preuve en est. Vous voyez, je me suis fait plaisir. J'ai vu en ce moment-là, il y a de la patate douce, il y a aussi du poisson. Je vais aller voir pour le prix quelle sorte de poisson. Ça va aller très bien avec les bananes.
Ça change parce que, bon, il y a moins d'exposants, mais il y a moins de monde aussi parce que le samedi, c'était un peu juste, quoi. Toute la Calédonie qui vient en une demi-journée, ça faisait un peu serré, quoi.
Et là, vous avez trouvé quelque chose de bon ?
Bah oui, du petit salé.
C'est bien, ça change du samedi, des picots rayés, frits avec un bon rougail de tomate.
C'est super pour les gens, ça change, ça fait... Parce que le samedi, il y a trop de monde, et là, il y a moins de monde, on peut circuler. Le samedi, c'est horrible pour venir ici, il faut se faire de la place.
Vous avez trouvé votre bonheur ?
Oui, non, regardez, bah, j'ai pris un pied de tarot à 1000 francs, c'est pas cher, mais samedi, c'est cher. Hein.
C'est très bien, c'est super, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas... Le week-end, mais qui ne peut pas, ils ont des loisirs comme tout le monde, quoi. Ils ne peuvent pas se rendre au marché. Et là, le mercredi, c'est super. Moi, je trouve que c'est super. J'ai trouvé des crabes, là. Bon crabe bien plein. Et là, ensuite, là, j'ai pris des plus de carottes pour faire une bonne soupe avec la pluie qui s'annonce. Hein. Très content.
Et le marché Broussard de Ducos est donc le samedi de 5h à midi et désormais le mercredi de midi à 17h.
RRB 18h19.
Quelques mots de sport pour terminer ce journal. Des Calédoniens sont aux Océania de cyclisme sur piste, Michael Juneski.
Une compétition qui se déroule en Australie. Nos représentants aux côtés de cyclistes australiens et néo-zélandais, notamment de niveau olympique. Pas de podium pour le moment, mais une expérience plus que bénéfique sur le vélodrome de Brisbane. Chez les moins de 19 ans, on signalera que Louise Chavitz a terminé 12e des qualifications sprint féminine. Kéryl Motrice est classée 10e des qualifications à la poursuite et son frère Kyrian 16e, toujours chez les moins de 19 ans. Hugo Pommelet n'a pas pu terminer la finale de la course Scratch Elite, la compétition qui continue jusqu'à la fin de la semaine à Brisbane.
Et il y a aussi des Océaniens en cours également, c'est en badminton.
En Nouvelle-Zélande, chez les moins de 15 ans, les championnats par équipe mixte Victor 2025. Et on signalera notamment cette victoire de la Calédonie sur les îles Mariannes du Nord sur le score de 3-2. Les Calédoniens qui avaient également surclassé la sélection de Wallis et Futuna 5-0. La compétition continue jusqu'au 16 février à Auckland.
Et puis un mot de rugby avec un nouveau Calédonien qui pourrait retrouver le haut niveau national.
L'Okelani Logoni effectuait un stage d'immersion en métropole au sein de la section paloise. Une expérience plus qu'enrichissante pour le licencié de Païta aux côtés de professionnels. Il attend désormais une réponse pour intégrer le centre de formation de la section paloise dans l'antichambre du monde professionnel. S'il est retenu, il pourra à son tour rêver d'évoluer dans le plus haut niveau du rugby national.
Et après le sport, on parle du temps et de la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Alors, cette nuit, aux Loyautés, sur la côte Est, le ciel sera peu nuageux à étoiler. Sur les autres régions, les nuages seront plus nombreux et déposeront des averses éparses. Le vent continuera progressivement de faiblir et s'orientera ouest à sud-ouest. Sur l'île des Pins, l'extrême sud et la pointe sud-ouest, il dépassera parfois les 20 nœuds, avec des rafales de 30 à 35 nœuds. Sur l'ouest, Belep et aux Loyautés, il sera compris entre 15 et 20 nœuds, avec des rafales possibles. Les températures minimales seront comprises entre 24 et 26 degrés. Localement 21 à 23 degrés sur l'ouest. Demain matin, sur la façade ouest et les pointes nord et sud, des nuages circuleront et déposeront des averses éparses. Localement modérées, quelques ondées toucheront les Loyautés et plus rarement l'est. Le vent de secteur ouest soufflera de 10 à 15 nœuds sur la pointe nord et le nord-ouest. Il sera proche de 20 nœuds de secteur sud sur le sud-ouest et l'extrême sud, avec quelques rafales à 30 nœuds. Ailleurs, le vent soufflera d'ouest à nord-ouest autour de 15 nœuds Léo.
Merci Nicolas pour ce point complet sur la météo. Merci aussi pour la technique.